Nous allons aborder maintenant le deuxième film au programme. Il s'agit de La Vallée des Loups, qui date de 2016 et qui est un documentaire. Le film dure 1h31 minutes. Vous avez dans le dossier intitulé précisément La Vallée des Loups, deux sous-dossiers. L'un nommé lui aussi La Vallée des Loups 2016, l'autre Marche avec les Loups 2020. Puis vous avez un diaporama, formation du mercredi 4 novembre 2020, et un document Word, La Vallée des Loups, Marche avec les Loups. Le premier sous-dossier, La Vallée des Loups, comporte, comme le dossier sur Un conte peut en cacher un autre, des documents. Malheureusement, ils sont beaucoup plus pauvres que ceux que j'ai pu vous proposer pour Roald Dahl, puisque vous ne trouverez à côté de l'affiche et d'une photo uniquement le PDF du dossier pédagogique créé par Pathé Film. Et vous aurez un deuxième sous-dossier constitué de photogrammes que vous pourrez étudier en classe ou simplement montrer aux élèves pour le plaisir de l'esthétique. Vous avez ensuite comme extrait de film le numéro 0, c'est la bande-annonce officielle. Et cette bande-annonce, je vous conseille de la montrer aux élèves juste avant que la projection aura lieu dans la salle de cinéma, si tant est qu'elle puisse avoir lieu, là encore pour appâter en quelque sorte les enfants. Puis, vous avez trois extraits du film. L'un qui est un extrait du début du film en version longue, l'autre qui est un extrait du début du film en version courte. Vous pourrez exploiter l'un ou l'autre extrait après la projection. Nous travaillerons d'ailleurs tout à l'heure sur le numéro 2, la version courte. Puis vous avez un extrait de la fin du film, en quelque sorte, qui cristallise la rencontre de Jean-Michel Bertrand, le réalisateur, avec enfin les loups, donc l'aboutissement de la quête. Et pour terminer, vous avez un bonus qui est présent sur le DVD, qui montre quels étaient les membres de l'équipe qui ont accompagné Jean-Michel Bertrand dans le tournage. Vous verrez que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas seul. Nous reviendrons ici encore sur cette question. La pauvreté du document pédagogique m'a incité à m'intéresser au film Marche avec les loups, qui est en quelque sorte la suite du premier et qui date de 2020. Le film est maintenant disponible en DVD depuis la rentrée et je vous conseille évidemment, ne serait-ce que pour vous, d'établir un parallèle entre les deux œuvres. La Vallée des Loups cristallise la rencontre. Marche avec les loups indique que l'auteur-réalisateur va se mettre en route pour suivre la pérégrination des loups depuis la fameuse vallée du Champsaur où il les a rencontrés jusqu'au-delà de Genève. Nous reviendrons sur ce point aussi. Alors, dans Marche avec les loups, vous avez un sous-dossier qui est constitué de documents iconographiques. Et vous avez ensuite le dossier de presse qui fait pendant au dossier de presse que vous avez pour la Vallée des Loups, mais vous avez ensuite un dossier pédagogique et un carnet Marche avec les Loups. Alors ce dossier pédagogique et ce carnet me semblent très très utiles pour travailler sur le film La Vallée des Loups parce que vous y trouverez des éléments qui vont vous permettre de travailler en transversalité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de documents concernant l'écologie et de documents concernant la manière de vivre du loup et la manière, je dirais, de reconnaître les traces du loup par rapport à celles d'autres animaux. Vous pourrez donc travailler avec vos élèves sur des leçons de biologie, de sciences naturelles, comme on disait autrefois, et sur des notions d'organisation sociale d'une bande d'animaux. Et vous pouvez compléter votre réflexion par un dossier pédagogique agricole qui s'adresse évidemment à des élèves de lycée agricole. Donc apparemment, cela ne concerne pas vos propres élèves. En réalité, vous trouverez dans ce dossier pédagogique, qui fait de manière très facile un peu de philosophie, des éléments de réflexion qui vous permettront d'approfondir l'analyse du film La Vallée des Loups. Effectivement, ce document pose la question de la cohabitation de l'homme et de l'animal, et il nous amène à réfléchir sur la manière dont nous considérons les animaux, c'est-à-dire est-ce que nous devons en rester encore à une façon de voir anthropocentrique. Et vous comprenez que À ce moment-là, nous pouvons établir des correspondances avec les questions que nous avons posées dans le dossier concernant un compte peut en cacher un autre. Vous aurez donc à ce moment-là largement de quoi enrichir votre réflexion et pédagogiquement, vous avez en quelque sorte quelques séances qui vous sont proposées de manière implicite et qui seront facilement exploitables pour vous. À partir de là, évidemment, je vous conseille pour créer un écho au film que vous aurez vu, de projeter aux élèves, enfin plutôt de montrer aux élèves, Marche avec les loups, la bande-annonce du film officiel que de toute façon vous pouvez retrouver aisément sur Internet. Il est donc nécessaire pour moi d'établir un dialogue entre les deux films. C'est la raison pour laquelle, toujours dans le dossier intitulé La vallée des loups, je vous ai créé un petit document Word qui établit le dialogue entre les deux films avec un résumé de l'œuvre du réalisateur et une mise en parallèle de Marche avec les loups et de La vallée des loups. En fait, on ne peut pas considérer ces deux films comme seulement un diptyque, mais il faut revenir au premier film de Michel Bertrand, qui date de 2010 et qui s'intitule « Vertige d'une rencontre ». En d'autres termes, ce vertige d'une rencontre consiste pour le réalisateur à observer, autant que faire se peut, l'aigle royal dans le parc national des Écrins. Et Jean-Michel Bertrand aura passé 5 ans seul à arpenter la montagne par période de 5 à 6 jours. C'est au moment de la rencontre avec l'aigle que Jean-Michel Bertrand à l'idée de rencontrer à nouveau un autre type d'animal qui est le loup. Et cette idée qui lui apparaît à la fin, évidemment, du travail qu'il a opéré sur l'aigle royal, cette recherche de la vallée des loups, excusez-moi, va déboucher, là encore, sur 3 ans de pérégrination, seul, dans une vallée du Champsaur, donc au-dessus de Gap. Et cette vallée n'est pas identifiée dans le film. Et Jean-Michel Bertrand précise qu'il a décidé de ne pas indiquer où se trouvaient les loups, tout simplement pour ne pas troubler leur habitat et pour ne pas briser leurs habitudes. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'au début du film La vallée des loups, Jean-Michel Bertrand indique nettement que ce sont les oiseaux et les aigles qui lui ont indiqué la suite de son travail. Cela nous amène évidemment à nous poser la question de savoir comment Jean-Michel Bertrand a pu filmer et se filmer pour créer le film La vallée des loups. Eh bien, il faut comprendre tout de suite que ce film est issu de deux types de prises de vue. Des prises de vue effectuées par Jean-Michel Bertrand lui-même au moment de sa quête et d'autres images qui ont été en quelque sorte reconstituées puisqu'il a refait son itinéraire, accompagné cette fois-ci d'une caméraman et évidemment d'un preneur de vue pour les plans qui ont été filmés depuis un drone. Vous comprenez qu'à ce moment-là, la solitude de Jean-Michel Bertrand telle qu'elle est filmée, c'est-à-dire quand il nous apparaît lui-même à l'écran, est une solitude reconstituée et cela nous amène effectivement à nous poser réellement la question de savoir si c'est un documentaire ou si c'est, là encore, un récit purement narratif et un récit de fiction. Vous comprenez que cette première remarque nous amène à réfléchir sur le genre même du documentaire. Maintenant que nous avons présenté l'ensemble des documents, je voudrais effectivement vous amener à vous poser des questions sur ce que peut être le genre du documentaire par rapport au genre du conte et par rapport au genre du film narratif traditionnel. Alors cela me ramène à vous rappeler que à l'origine du cinéma, on a eu deux tendances que traditionnellement on a assimilées à d'une part les tableaux Méliès et d'autre part à ce qu'on a appelé les vues lumière. Vous savez qu'on dit que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, tout simplement parce qu'ils ont réussi à filmer puis à projeter des films qui seraient vus par plusieurs personnes en même temps sur un écran. Donc la captation du mouvement existait bien avant la venue des frères Lumière, mais cette projection en public qui caractérise le cinéma, ce sont bel et bien les frères Lumière qui l'ont organisée. À partir de là, on a constaté que les frères Lumière considéraient que le cinéma n'avait pas d'avenir, en fait je ne pense pas qu'ils le pensaient réellement, et qu'il était surtout destiné à capter des moments de vie privée ou des moments historiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit que les frères Lumière auraient donné naissance à la veine du cinéma documentaire, du cinéma du réel. Alors que Méliès, qui était issu, lui, du musical, des spectacles de magie, aurait donné naissance aux films de fiction, et ce sont les deux branches du cinéma qui seraient ainsi séparées. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, puisqu'on s'est aperçu que bien des vues Lumière étaient mises en scène ou reconstituées, et on a vu d'autre part que Méliès lui-même n'a pas hésité à, par exemple, reconstituer l'affaire Dreyfus. Donc vous voyez que la distinction entre les deux est un peu délicate. Et puis, nous avons vu en introduction que Jean-Michel Bertrand lui-même avait reconstitué son itinéraire pour se faire filmer dans le cadre de sa quête. De ce fait, opposer documentaire aux fictions est une distinction bien, bien, bien difficile. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis dans le diaporama une citation de Jean-Luc Godard qui est « Mettons bien les points sur les i ». Tous les grands films de fiction tendent vers le documentaire, comme tous les grands documentaires tendent à la fiction. Et qui opte à fond pour l'un, trouve nécessairement l'autre au bout du chemin. Pourquoi cette remarque ? Ben, tout simplement pour vous rappeler que même dans un film de fiction, même dans un film d'heroic fantasy dans lequel tout est reconstitué en images de synthèse ou tout est constitué d'images de synthèse, il y a toujours un appui du réel qui se produit dans la mesure où rien n'est créé de rien, seul Dieu, s'il existe, peut créer ex nihilo, et à partir de là, on peut dire que tout sortant même du cerveau humain est fondé sur des éléments du réel. Mais venons-en, si vous voulez bien, à ce qu'on appelle précisément le documentaire. Bon, un petit rappel, doceo en latin veut dire « j'enseigne ». Et le petit Larousse illustré, je vous renvoie encore à mon diaporama, nous dit que le document est d'abord un écrit ou un objet qui sert d'information, de témoignage, voire de preuve, par exemple dans un procès. Et le documentaire est ce qui a le caractère, la valeur, l'intérêt d'un document. Donc, apparemment, le documentaire, c'est un film qui montre des situations réelles. Le problème étant, si vous voulez, que ces situations réelles peuvent être plus ou moins marquées par une forme de subjectivité. Et nous sommes obligés, dans ce cas-là, de reconnaître la nécessité de la manipulation. En d'autres termes, un documentaire filmique ne peut en aucun cas être le résultat d'une prise de vue neutre, brute. Je m'explique. Imaginons que je veuille filmer l'un d'entre vous depuis sa naissance jusqu'à sa mort et que la personne que je choisisse de filmer vive 120 ou 130 ans, ce que je vous souhaite à tous. Mon film va durer 120 ou 130 ans en admettant que moi-même je puisse vivre aussi longtemps, sachant qu'à ce moment-là j'aurai peut-être 150 ans, donc c'est absurde. Mais surtout, c'est que les spectateurs, eux, ne vont pas regarder un film aussi long, donc je vais être obligé, moi, en tant que réalisateur du documentaire, de couper des moments qui me sembleront des moments creux pour privilégier des moments essentiels de la vie de la personne que je raconte. La naissance, les premiers anniversaires, le baccalauréat, que sais-je. Et à ce moment-là, ayant coupé et collé entre eux des fragments, je vais créer une première manipulation qui va être le montage. Et à ce moment-là, peut-être vais-je dramatiser la vie de la personne racontée, de la personne que j'ai choisie, alors que cette vie était à l'origine tout à fait plate, elle va devenir tout d'un coup pleine d'intérêt et de rebondissements. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis une petite photo de Sergueï Eisenstein en train de monter un de ses films. Vous savez qu'Eisenstein est le roi du montage, avec en particulier le cuirassé Potemkin. Mais imaginons que je puisse quand même raconter cette histoire sur 130 ans. Je ne vais pas enregistrer tout ce qui entoure la personne dont je veux raconter l'histoire. Et à ce moment-là, je vais choisir un point de vue. Et ce point de vue signifie deux choses. Il y a d'abord le point de vue physique, l'endroit d'où je me tiens avec ma caméra pour filmer la personne. Et il y a évidemment mon point de vue intellectuel, voire moral, spirituel peut-être, c'est-à-dire la manière dont je vois le personnage et la manière dont je veux traduire ma façon de le voir. Ces deux éléments, point de vue et montage, nécessitent forcément des choix, et à ce moment-là, la neutralité absolue dans un film documentaire n'existe pas. Même dans un film aussi neutre que ceux de Raymond Depardon, qui repose sur une approche très pudique, très lente des personnages, même dans des films de Frédéric Wiseman qui durent 3 heures pour laisser aux personnages le temps de s'exprimer, même dans ces films, il y a forcément un point de vue, il y a forcément la présence du réalisateur. Ça, c'était une chose que je voulais absolument signaler avant d'en venir plus précisément à La Vallée des Loups. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans La Vallée des Loups, alors que nous sommes dans un documentaire, nous avons bel et bien un récit, ce qui est d'ailleurs le propre de la plupart des documentaires qui vous sont présentés, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. J'ouvre une parenthèse, si vous regardez certains documentaires qui passent sur Arte l'après-midi, vous aurez souvent un personnage auquel vous allez vous accrocher ne serait-ce que pendant quelques instants, parce que vous avez besoin de vous identifier un héros, exactement comme dans un récit quelconque. Et effectivement, dans La Vallée des Loups, c'est ce que je vous montre toujours sur mon diaporama, vous avez un schéma narratif avec un équilibre initial, le personnage qui regarde les oiseaux, puis un élément modificateur, l'idée lui vient cette fois-ci de se mettre en quête des loups. Cet élément modificateur, évidemment, met en route le héros, et nous allons avoir toutes sortes de péripéties qui vont se dérouler sur 3 ans, avec, par exemple, les difficultés atmosphériques, la pluie, le vent, la neige, les prises de vue de nuit décevantes. Mais finalement, un aboutissement qui est lié à un élément réparateur, et cet élément réparateur va aboutir à un nouvel équilibre. Le héros décide de ne pas révéler le nom de la vallée où il a trouvé les loups et de se retirer pour ne pas troubler l'inquiétude et la, pour ne pas troubler la quiétude, pardon, des animaux. Cela d'ailleurs est tout à l'honneur de Jean-Michel Bertrand, parce que vous savez que tout travail ethnologique signifie une forme de destruction. Quand on s'approche d'une faune ou quand on s'approche d'une tribu qu'on qualifie de primitive sans aucune notion péjorative, dans la mesure où on s'approche de cette faune ou de cette tribu, on crée un déséquilibre dans l'ordre social, et plus jamais cette faune et cette tribu ne seront les mêmes après la venue de l'homme qui les a troublés. Et c'est pourquoi l'ethnologue doit être extrêmement prudent en sachant que de toutes les façons, il va détruire quelque chose. À partir de là, de ce schéma narratif que je viens de vous exposer, vous pouvez reconnaître dans La Vallée des Loups un schéma actantiel, encore une fois comme dans un récit quelconque, le héros, Jean-Michel Bertrand, le mobile, la quête du loup, la quête elle-même, le bénéficiaire, c'est Jean-Michel Bertrand, mais vous comprenez que c'est bien entendu aussi le spectateur. Et Jean-Michel Bertrand va avoir des adjuvants, ça va être évidemment tous ceux qui vont l'aider matériellement pour lui permettre de continuer sa quête, mais ça va être aussi parfois certains éléments naturels, certains éléments liés à la faune eux-mêmes, et vous allez avoir des opposants qui sont peut-être parfois les mêmes éléments naturels. De ce fait, je me suis permis de vous montrer une image pour la publicité de la communauté de l'anneau, du Seigneur des Anneaux, puisque ici encore, il s'agit d'une quête. Donc le héros est Jean-Michel Bertrand, la quête est l'enquête au sens policier du terme, puisque Jean-Michel Bertrand va essayer de trouver des traces des animaux qu'il est en train de pister, comme on dirait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette quête, cet itinéraire personnel, va amener le personnage à changer complètement sa manière de concevoir la vie et le monde. Il va éprouver des émotions, il va contempler la nature, il va redécouvrir la nature et il va créer une réflexion sur les rapports de l'homme et de la nature. À partir de là, vous avez deux bénéficiaires de la quête, comme je vous l'ai indiqué précédemment. D'une part, la redécouverte de soi de Jean-Michel Bertrand. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si, à force de se montrer à l'écran, il n'y a pas chez lui, à côté de l'auto-analyse, une forme de narcissisme. C'est une question qu'on est en droit de se poser. Mais après tout, vous savez, comme le disait si bien Montaigne, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que cette auto-analyse de Jean-Michel Bertrand forme un appel aux autres et à la société, c'est-à-dire un appel à une réflexion de nous-mêmes sur notre manière d'envisager le monde qui nous entoure, sur notre manière de considérer les animaux, et finalement sur notre manière de nous placer au milieu de l'écologie. N'oubliez pas que oikos en grec veut dire maison. L'écologie, finalement, c'est l'étude de notre propre maison, qui est le monde et la nature. Évidemment, il y aura une suite qui est Marche avec les loups, et c'est la raison pour laquelle je vous invite, avec vos élèves, à comparer les deux affiches des films. Dans La Vallée des loups, vous avez un bivouac qui vous est présenté avec une tombée du soir absolument magnifique. C'est la station d'observation, de contemplation et de patience. Et ensuite, La Marche avec les loups, c'est une façon de parcourir le monde avec les loups et à ce moment-là, évidemment, de nous amener nous-mêmes à nous mettre en marche pour redécouvrir ce qu'est le loup et pour redécouvrir le monde et peut-être aussi à refaire le parcours en sens inverse de toutes les erreurs que nous avons pu connaître. En d'autres termes, le film de Jean-Michel Bertrand nous invite tout simplement à repenser le monde et à repenser l'homme dans le monde. Vous comprenez que vous pouvez, à ce moment-là, comme je vous l'ai indiqué en introduction, mettre en rapport les deux films, La Vallée des loups et Un conte peut en cacher un autre, puisque l'un comme l'autre nous amène à réfléchir sur notre façon de concevoir et sur notre façon de nous comporter. En d'autres termes, ils remettent en cause notre anthropocentrisme. C'est quand même un changement radical de la pensée humaine des siècles précédents. Ce n'est pas nouveau, on sait que ce retournement de perspective, ce retournement de question a déjà eu lieu, mais vous avez là deux outils pédagogiques pour éveiller vos élèves à ces questions de l'écologie. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, essayer d'étudier avec vous, comme vous pourrez le faire avec vos élèves, le début du film, qui est évidemment, je dirais, une entrée dans la diégèse, ce que l'on peut appeler en quelque sorte un incipit de film. Donc, nous allons prendre l'extrait numéro 2, qui est la version courte du début du film. Donc, ne m'en veuillez pas si, comme pour l'extrait précédent, vous entendez quelques manipulations. Ce que vous voyez au début, c'est un plan d'ensemble, ce qu'on appelle un establishing shot, qui a été pris par un drone, avec un mouvement très léger de travelling avant, le tout étant pris en plongée. Alors, qu'est-ce qu'un establishing shot ? C'est un plan d'exposition. En d'autres termes, c'est un plan de très grand ensemble dans lequel on insère le personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage est filmé dans un triangle lumineux, ce qui permet à la fois d'attirer l'œil du spectateur sur le point minuscule de Jean-Michel Bertrand en train de progresser, et ce qui permet d'autre part de montrer la petitesse de l'homme dans le monde, surtout quand il est dans une nature sauvage. Dans un deuxième temps, vous avez toujours un plan de grand ensemble. Ce plan intervient à peu près à 8 secondes. Et nous voyons la silhouette de Jean-Michel Bertrand plus nettement découpée entre l'ombre et la lumière. Et cette fois-ci, vous avez un mouvement de caméra en sens inverse, qui est une sorte de travelling avec un panoramique horizontal, droite-gauche, qui crée un mouvement. Ce mouvement, on se demande pourquoi il est ainsi fait, tout simplement parce qu'au plan numéro 3, à la 15e seconde à peu près, vous avez l'apparition de l'aigle, l'aigle royal, qui était le sujet précédent des films de Jean-Michel, du premier film de Jean-Michel Bertrand, et qui, à ce moment-là, nous donne l'impression que les deux premiers plans avaient été des plans subjectifs de l'oiseau observant l'homme. Après que l'homme a observé l'oiseau, c'est à l'oiseau d'observer l'homme. Et évidemment, ici, nous avons un plan rapproché de l'oiseau, toujours dans une sorte de balai, puisque la caméra opère à la fois un panoramique et un panoramique oblique et ascendant, droite-gauche. Puis, nous avons toujours un plan de très grand ensemble, avec cette fois-ci un travelling avant qui crée une espèce de vertige puisque nous sentons le sol se dérober sous nos pas et nous allons avancer vers un piton rocheux vers lequel se dirige Jean-Michel Bertrand. Alors, le mouvement de caméra est assez complexe puisque toujours en travelling avant, nous opérons petit à petit en même temps un panneau travelling gauche-droite. Ce travelling d'accompagnement est accompagné d'une plongée, puis d'un travelling latéral toujours d'accompagnement. Et la caméra recule à ce moment-là en travelling arrière avec toujours ce panoramique droite-gauche. Et nous suivons le personnage en panoramique d'accompagnement avec une plongée de plus en plus forte. Tout ceci crée une sorte de balai, ce qui d'ailleurs m'amènera tout à l'heure à vous parler du texte et du son. Le plan suivant, qui arrive à 1 minute 21, marque une brutale rupture, puisque du plan de très grand ensemble, qui était long pour permettre à la majesté du paysage de se déroulé devant nous. Nous arrivons maintenant à un insert, sur les pieds de Jean-Michel Bertrand et sur ce qui, dans un premier temps, pourrait faire penser au canon d'un fusil, alors qu'en fait, il s'agit simplement du pied de sa caméra. Et évidemment, nous avons ici la difficulté qui nous est montrée d'accéder à certains postes d'observation et nous avons une évocation du danger que peut parfois subir Jean-Michel Bertrand. Trois plans courts qui, après le premier, insère sur les pieds de la caméra, puis plan de demi-ensemble sur, les pieds qui ne sont pas ceux d'une caméra, mais finalement d'un objectif, d'une grande jumelle. Et enfin, un plan rapproché taille de profil qui nous montre Jean-Michel Bertrand en train d'observer. Et c'est évidemment un rappel de ce qu'il a fait jusqu'à présent et une annonce de ce que sera le film, la contemplation. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse sur ce point. Il va falloir que vous soyez très pédagogue, ce dont je ne doute pas, pour présenter le film à vos élèves et leur expliquer que ça ne sera nullement un film d'action, même si c'est un récit avec des rebondissements. Ce sera avant tout un film contemplatif avec de longues plages de réflexion. Et il faudra que, malgré leur jeune âge, ils acceptent d'entrer dans ce type de cinéma qui n'a rien à voir avec les films Marvel dont ils ont l'habitude. Et évidemment, que voyons-nous maintenant ? Nous avons dans l'objectif l'oiseau, c'est-à-dire l'aigle que Jean-Michel Bertrand avait l'habitude d'observer. Je vais arrêter ici mon analyse parce que ce serait trop long pour vous, mais c'était simplement pour moi un moyen de vous montrer comment vous pouviez utiliser le vocabulaire technique que je vous ai signalé dans ma première intervention, l'intervention orale numéro 1. Mais vous voyez que sans être trop compliqué du point de vue technique, vous pouvez sensibiliser les élèves au mouvement de la caméra et surtout les amener à réfléchir sur mais est-ce qu'il est vraiment seul, le personnage ? En fait, vous comprenez qu'il faut bien que quelqu'un filme, quelqu'un pilote le drone, ou bien tienne la caméra proche de Jean-Michel Bertrand, et ceci nous amène évidemment à entrer dans les artifices du cinéma. Dans un deuxième temps, vous pourrez travailler sur le son que l'on entend au cinéma, et en fait, vous avez finalement trois sons particuliers. Vous avez les paroles de Jean-Michel Bertrand qui, curieusement, ne résonnent pas réellement comme si elles étaient prises en plein air. Il y a une sorte d'écho feutré que l'on entend, comme si Jean-Michel Bertrand nous parlait à l'oreille, tout simplement parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il ne veut absolument pas déranger l'équilibre de la nature, mais cela nous amène tout de suite à comprendre que le son a été enregistré en studio et qu'il a été mixé et que par voie de conséquence, il y a eu là une sorte de manipulation, une fois encore. Et cette voix, il est difficile de dire si elle est en hors-champ ou si elle est off. Pour ma part, elle est un peu off puisque cette voix commente en fait tout l'itinéraire que Jean-Michel Bertrand a opéré pendant 3 ans et qu'il est en train de reconstituer ici. Puis, vous avez la musique. La musique de Armand Amar est très belle. Elle est fondée essentiellement sur des émotions qui sont liées à ce que la musique est dite empathique. En fait, si vous voulez, pour reprendre le document que je vous ai donné dans le premier sous-dossier « Paroles, bruit, musique, le son au cinéma », je vous rappelle que la musique peut avoir 3 fonctions. Dans la mesure où elle est empathique, anempathique, contrepoint didactique. Pour le contrepoint didactique, je vous laisse vous reporter au document. J'insiste simplement sur la notion d'empathique et d'anempathique. Imaginons un bal très gai dans lequel une jeune fille danse avec son fiancé. Les deux amoureux sont très gais, la musique est très gaie, elle accompagne le sentiment des amoureux, elle amplifie ses sentiments. Dans ce cas-là, elle est totalement empathique. Mais une dispute survient, les deux amoureux se séparent et la jeune fille va pleurer fortement dans son coin, tandis que le jeune homme, plein de colère, laisse aller son émotion, peut-être en versant des larmes à son tour. À ce moment-là, la musique continue, mais elle devient anempathique, c'est-à-dire qu'elle est en contradiction avec les émotions que éprouvent les personnages et avec les émotions donc que nous montrent les images. À partir de là, cette musique, paradoxalement, va renforcer encore plus peut-être le sentiment que nous éprouvons, puisqu'elle va être en contradiction avec le sentiment des deux amoureux. Alors, ceci amène à se poser la question du rôle de la musique, je vous en ai déjà parlé. Faut-il de la musique ou non ? Ici, Jean-Michel Bertrand a éprouvé le besoin d'en mettre, à la fois pour souligner l'émotion qu'il éprouve lui-même, mais pour en créer une chez le spectateur, et en même temps aussi pour agrandir l'espace et pour faire ressentir au spectateur, du point de vue strictement émotionnel, cette émotion que lui-même a ressentie face à l'immensité et à la solitude de la vallée qu'il a parcourue. Ce qui, ensuite, nous amène à nous interroger sur les bruits dits naturels. On entend parfois de manière un peu bruitée le vol de l'oiseau, comme les ailes étaient en quelque sorte soyeuses. Nous avons ici ou là des cris des oiseaux. Il faut comprendre que certainement, ou peut-être, ils ont été captés par Jean-Michel Bertrand, mais ici, ils ont été mixés par le monteur pour être en pleine adéquation avec l'image. Et nous retombons ici sur cette fameuse notion de manipulation. Le documentaire, lui aussi, est issu d'une manipulation, mais sans qu'il y ait forcément, j'insiste sur ce point, une notion péjorative. Il s'agit tout simplement de monter parce que on ne peut pas projeter des images brutes. Cela peut être fait. Tentez l'expérience avec vos élèves. Amenez-les par exemple Si vous en avez la possibilité, le droit en ce moment, au bord de la route, filmez-les au bord de la route et captez les sons qui sont à ce moment-là présents. Vous verrez, si une voiture passe, que le son va gâcher complètement votre prise de vue et qu'à ce moment-là, vous allez être obligé d'opérer un fameux mixage. À moins que vous ne tentiez l'expérience, le spectateur acceptera cela pendant quelques secondes, il ne tiendra pas pendant la durée d'une heure et demie. Voilà. Donc, tout ceci m'amène à faire la remarque suivante. Demandez à vos élèves d'être attentifs, d'écouter, de voir, de ressentir, et ensuite, dans un deuxième temps, à partir de l'émotion qu'ils auront ressentie, d'aboutir à une forme de réflexion intellectuelle et à ce moment-là, d'aboutir à une interprétation. Quelle a été la volonté du réalisateur et de l'auteur Jean-Michel Bertrand en opérant cette entrée en matière, cette mise en scène de lui-même? Comment nous amène-t-il dans la diégèse? Pourquoi cet incipit? Tous ces éléments-là, vous pouvez les utiliser pour une analyse filmique, mais vous le savez mieux que moi, pour une analyse littéraire. Et vous comprenez pourquoi, dans mes présentations au début, j'ai insisté sur la notion de texte littéraire et de texte filmique. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons un tissu, c'est le sens du mot texte, dont il nous faut trouver la trame et dérouler les fils. Je vous souhaite une excellente projection. J'espère que vous allez pouvoir amener vos élèves au cinéma. Sinon, si vous en avez la possibilité, montrez-leur au moins des extraits des deux films parce qu'ils sont enrichissants pour vos élèves et pour vous. Et vous pouvez y trouver, à côté de l'intérêt intellectuel, beaucoup de plaisir, je l'espère. Je vous renvoie pour cela au titre d'un livre de Laurent Julliet, Interpréter un film, de l'émotion à l'interprétation. Analyser un film, pardon, de l'émotion à l'interprétation. Je vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire, au moins jusqu'aux vacances de Noël, et j'espère que vous travaillez dans des conditions qui sont à peu près acceptables. N'hésitez pas, j'insiste, à me contacter à nouveau si vous en avez besoin, et je vous souhaite bon courage. Merci.